partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Canal Académie poursuit ses entretiens avec les représentants de l'Alliance française dans le monde. Notre voyage nous conduit cette fois en Mauritanie. Nous sommes très heureux d'accueillir Luc Fabre, délégué général de l'Alliance française de Paris en Mauritanie. Monsieur Luc Fabre, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc ce titre de délégué général de l'Alliance française de Paris en Mauritanie, mais vous avez une deuxième casquette, vous m'avez dit?
Bien sûr, je suis le directeur de l'Alliance la plus importante du réseau des alliances franco-mauritaniennes, l'Alliance de Nouakchott.
Voilà.
Un peu l'alliance mère du réseau.
Oui, et nous sommes donc d'autant plus heureux de vous recevoir que nous espérons découvrir avec vous une part de désert dont on parle assez peu. On ignore trop souvent, par exemple, que la Mauritanie devint territoire français d'outre-mer à partir de 1946.
Oui.
Alors, pourriez-vous nous brosser peut-être un portrait de ce pays, de sa situation géographique, de ses frontières, ses ethnies et son climat, sa faune, sa flore, ses oasis et ses palmeraies? Faites-nous rêver un petit peu.
Je vais essayer rapidement. Donc, pour situer un petit peu les choses, la Mauritanie, c'est déjà deux fois la France pour 3 millions d'habitants. C'est couvert par à peu près 4/5 de désert, avec au nord une frontière avec le Maroc, où nous avons une alliance, l'alliance de Ouagadougou, et avec comme frontière aussi l'Algérie, le Mali et le Sénégal.
Oui, le Mali et le Sénégal au sud.
Voilà, au sud. Donc, un pays très étendu, qui a la chance quand même d'avoir une ouverture sur la mer, avec une mer très poissonneuse et connue par tous les amateurs de pêche.
Donc c'est une des ressources du pays, c'est-à-dire
bien
la
sûr.
Pêche.
Il y a deux grandes ressources en Mauritanie, la pêche, le minerai de fer. Et depuis 2 ans, le pétrole, qui a commencé d'ailleurs à jaillir, et ça pose pas mal de problématiques quant à l'avenir du pays, puisque c'est quand même une manne qui est incontournable et qu'il va falloir gérer pour ces nouveaux régimes qui vont se succéder là, après la période de transition. Et il semblerait que ces gisements soient plus importants que prévu. Et d'ailleurs, beaucoup de sociétés commencent à pointer leur nez en Mauritanie, notamment Total et Gaz de France, qui font des prospections, eux, sur Terre. Alors que les gisements actuels sont détenus par une société australienne qui s'appelle Woodside et qui sont offshore. Voilà.
Oui, qui laisse encore un peu de place aux poissons, quand même.
Un petit peu. Le poisson mérite d'ailleurs beaucoup de coopération bilatérale, qu'elle soit espagnole, qu'elle soit française, et notamment l'Union européenne se penche sur ce problème.
Parce que c'est inépuisable.
Il faut absolument réguler
la production, bien
sûr. C'est une problématique aussi urgente et importante à Mauritanie.
Et quel genre de poisson, par exemple?
Alors, comme poisson, essentiellement, ce qu'on appelle du bar, de la courbine. Beaucoup de pays sont très friands aussi de calamars.
Ah oui.
De poulpes.
Oui,
sèches.
Oui. J'en connais.
Voilà, et puis il faut voir aussi que de Ouagadougou pratiquement jusqu'à Nouakchott, c'est pratiquement 1000 km jusqu'à la frontière du Sénégal, c'est plus de 1000 km de côte où il n'y a aucune habitation.
Ah bon?
Avec simplement deux caps et ce fameux parc du Bandarguin qui est une zone importante, si vous voulez, de migration pour les oiseaux.
Ah oui, et donc il n'y a pas encore d'installation touristique?
Aucune.
Il y a donc de grandes plages de sable vides.
Oui, vous avez des régions.
Comme au paradis.
Un petit peu. Avec des régions magnifiques où vous avez des cordons dunaires qui se jettent, bien entendu, dans la mer.
Oui.
Il y a une zone, par exemple, où vont souvent aussi bien les Mauritaniens que les coopérants camper. On appelle cette zone la zone des grandes dunes qui se jettent dans la mer. Et d'ailleurs, on est bloqué à partir du moment où la marée monte. Donc, on utilise ce qu'on appelle une raïma, qui est une tente mauritanienne, tente des nomades, qu'on peut acheter sur le marché de Nouakchott, en général qui sont confectionnées et élaborées par des coopératives de femmes. Donc, elles sont décorées avec des losanges. Ce sont de grandes tentes qui font parfois 4 mètres sur 6 mètres ou 4 mètres sur 3, ou ça dépend les mesures. Et on plante la tente sur ces grandes dunes et on est totalement isolé par la marée.
Ah oui, voilà. Oui, bien sûr, parce qu'il s'agit de tribus, donc de nomades.
Alors, oui,
comme
bien
principale
que,
bien que population mauritanienne.
Le nomadisme régresse dû, bien entendu, au phénomène d'urbanisation. C'est que la Mauritanie est un jeune pays, je veux dire, pas au niveau de l'histoire, mais au niveau de la capitale, par exemple, qui a été implantée en 1953, 1956. C'est un pays qui a une cinquantaine d'années. Hein. et qui était au départ, Nouakchott était simplement au départ un fortin. D'ailleurs, je connais un ingénieur qui a travaillé à la première pierre de Nouakchott, qui s'appelle M. Sahu, qui vit depuis pratiquement 50 ans, un Français, qui vit depuis 50 ans avec son épouse en Mauritanie, et qui a pratiquement tous les bâtiments importants, qui les a gérés, qui continue à 75 ans à travailler pour la Banque mondiale et à élaborer et à suivre des chantiers dans le domaine éducatif concernant la construction d'écoles. Donc vous voyez, c'est une nation qui est jeune, puisque je parle sur le plan de, si vous voulez, de l'implantation des villes comme Nouakchott.
Oui. Voilà. Quand vous dites nation, ils se sentent vraiment comme une nation ou ça reste quand même
Non, non, ils se sentent comme une nation avec une diversité culturelle, avec, si vous voulez, quatre grandes, j'allais dire, tribus ou langues. Hein. Vous avez bien entendu le Hassania.
Oui, alors expliquez-nous ça un peu plus en détail.
Alors vous avez la communauté, bon, on appelle ça la communauté des si vous voulez, des morts, hein, qui parle le Hassania, c'est la langue officielle. Hein. Mais vous avez aussi du côté du Sénégal et du côté de Kaïdi, on a une alliance frontière du Sénégal. Là, nous avons une population qu'on appelle Soninké, qui parle Soninké. Nous avons aussi des Poulards, qui parlent donc le Poulard. Ce sont des langues africaines qui sont des composantes essentielles des échanges linguistiques de cette ville. Puisque...
Et ils se comprennent entre eux ?
Bien sûr, mais les langues qui sont si véhiculaires, enfin, je veux dire, qui permettent aussi l'échange, sont parfois le français, le Hassania, le Poulard, le Wolof.
Oui, justement, le Wolof du Sénégal, c'est
important,
assez
bien
connu.
Sûr.
Oui.
Donc, vous voyez, toutes ces composantes linguistiques existent et donne, si vous voulez, à la Mauritanie un terrain qui est très complexe pour mener, je veux dire, habilement et adroitement des politiques linguistiques. Très difficile, puisque la période d'arabisation qui a commencé dans les années 80 a imposé, si vous voulez, l'arabe, le Hassania, et l'arabe classique comme langue, si vous voulez, officielle. Donc, vous imaginez la difficulté pour des gens dont la langue maternelle est le Hassania, le Poulard ou le Soninké.
Doit apprendre l'arabe depuis peu, donc, vous
bien
dites,
sûr.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date ?
Oh, la période d'arabisation date des années 80. Vous avez une réforme très importante en 99 qui introduit le français dès la deuxième année. Dès la deuxième année
de scolarisation.
De scolarisation. Donc, on commence par l'arabe classique et le français est introduit en deuxième année, mais dans les matières scientifiques.
Et donc, leur langue d'origine serait un peu oubliée dans la scolarisation ? Langue maternelle,
oui. Oui, puisque le Poulard, Hassania, Wolof, ils sont des langues maternelles pour l'ensemble de la population. Donc vous arrivez à un paradoxe. On dit que ces nouvelles générations ont été un petit peu sacrifiées parce que depuis 1999, cette réforme est très importante et très courageuse, hein, qui instaure donc l'arabe comme langue officielle et le français comme deuxième langue, pose un véritable problème parce que vous avez des élèves qui ne maîtrisent ni l'arabe ni le français. Donc on a en qualité une certaine régression par rapport à ces deux langues qui sont les langues d'enseignement maintenant, mais qui ne sont pas les langues maternelles.
Oui.
Vous voyez la complexité.
Et qui
ne
sont pas finalement les langues naturelles.
Ce qui explique en partie le succès des alliances et du réseau des alliances, puisque le français maintenant devient une matière incontournable du système éducatif.
Est-ce que ce n'est pas un peu forcé ?
Oui, le terme...
Peut-être la question
c'est des polémiques,
à ne pas poser. Mais...
Oui, c'est forcé, mais de l'autre côté, est-ce que les Mauritaniens peuvent éviter
s'intégrer
ce choix
dans la mondialisation.
Exactement.
Oui.
Je veux dire, que ce soit le français ou l'arabe, ce sont des langues essentielles du commerce, des affaires,
universelle,
de la culture, des études universitaires.
Oui.
Voilà pourquoi le succès aussi des alliances. Parce que prenez un jeune étudiant maintenant qui a le bac mauritanien. S'il désire étudier en France, très difficile d'avoir le niveau dans la pratique du français, sauf s'il est bilingue, c'est-à-dire issu, par exemple, d'origine négro-mauritanienne, ou chez les négro-mauritaniens, il y a quand même eu, par l'influence du Sénégal, si vous voulez, l'influence de la pratique du français. En instaurant l'arabe comme langue officielle, ces gens-là n'ont une pratique de l'arabe et une pratique du français insuffisante pour faire des études universitaires. Donc, pour revenir un petit peu au rôle essentiel des alliances, une des formations les plus prisées, si vous voulez, dans notre réseau des alliances, c'est ce qu'on appelle une année de langue. C'est-à-dire que les étudiants, avant de partir dans les pays francophones, suivre des études universitaires en Algérie, en Tunisie, qui a un très bon système universitaire, au Sénégal ou en France, ils font une année de langue, soit dans des établissements universitaires mauritaniens, le CREL, qui est un centre de renforcement des langues, soit le réseau des alliances franco-mauritaniennes. Et essentiellement, Nouakchott, parce qu'il est difficile, si vous voulez, dans les villes de province comme à Kaïdi, Attar ou Nouadhibou, étant donné que le tiers de la population est
concentré
sur Nouakchott, oui, d'avoir, si vous voulez, une équipe pédagogique suffisante pour mener à bien des formations quand même très exigeantes qui ont un contenu de formation de 24 heures semaine avec modulaire. Donc, ça pose un véritable problème.
J'imagine un petit peu la difficulté financière également, parce qu'évidemment, l'enseignement des alliances françaises est payant.
Bien sûr.
Donc, alors, pour vous donner comment peuvent-ils se permettre? Parce que j'imagine que ce ne sont pas toujours des fils et filles de Mauritaniens particulièrement aisés.
Je dis toujours à mon président que malgré les exigences économiques qui sont liées au système des alliances, on a un devoir un peu civique qui nous honore, puisqu'on participe vraiment, si vous voulez, à l'ouverture de ce pays, parce que ce soit l'apprentissage de l'arabe ou que ce soit l'apprentissage du français, et particulièrement du français, ce sont quand même, pour les gens qui le défendent, un signe d'ouverture politique. Et c'est très important. Alors, pour vous donner un exemple, très simple, 60 heures de cours à l'Alliance de Nouakchott, ça coûte 9000 ouguillas. 9000 ouguillas, ce n'est même pas 30 euros. 60 heures de cours. Oui. Une année de langue à l'Alliance de Nouakchott.
C'est une question de relativité par rapport à leur revenu.
Voilà, 500 heures de cours à l'Alliance de Nouakchott pour une année de langue, ça revient à 5000 ouguillas. 5000 ouguillas, pour vous donner un exemple, 1 euro égale 330 ouguillas. Mmh. Donc c'est vraiment peu cher.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir, par exemple, sur l'Alliance de Nouakchott, pour un pays simplement de 2,7 millions à peu près d'habitants, on arrive à avoir une alliance qui accueille cette année 2000 étudiants.
2000 étudiants,
pour 30
oui.
profs, 30 professeurs vacataires. Et autour de moi, j'ai 8 administratifs qui m'aident à mener cet établissement qui, je vous le dis, au-delà de l'attrait du français pour des raisons historiques.
Maintenant également pour des raisons de promotion sociale.
Et, exactement.
J'imagine que vos étudiants sont très assidus.
Exactement. Oui. Et puis, je veux dire, l'année de langue devient un passeport incontournable si on désire suivre des études universitaires, mais aussi si l'on désire avoir un
s'ouvrir au monde avec l'arabe et le français.
On ne peut pas faire des affaires si on ne parle pas l'arabe et le français.
Et
même maintenant, l'anglais.
Oui. Est-ce qu'il y a une certaine rivalité ou au contraire, où pourrait résider notre force pour promouvoir nos valeurs culturelles et linguistiques françaises par rapport à la langue arabe?
Alors, la Mauritanie, c'est un pays particulier au niveau du contexte politique et du contexte linguistique. Ils ont vraiment, avec nous et avec les Français, moi je trouve, un rapport un peu passionnel. C'est amour... et parfois répulsion, quoi, je veux dire. Mais le français est un élément incontournable de ce pays.
Oui.
Et c'est un enjeu vraiment politique. Les gens sont marqués par rapport à ce soutien ou non de la culture française. Bon, vous savez qu'en ce moment, il y a une période très importante de transition politique, avec un comité militaire présidé par M. Mohamed Elival. Et ce président fait aussi ses discours en français. C'est un signe, je veux dire, notoire.
Mmh. Et, c'est donc pas considéré comme langue des ex-colonisateurs.
Non.
Peut-être quelque part, au fond...
Bien sûr, on se méfie toujours, il y a toujours une méfiance.
Mais c'est
vraiment senti auprès des élites et auprès de tous les opérateurs, même économiques, comme quelque chose d'essentiel. Vous savez, on a des scènes très émouvantes à l'Alliance. Vous avez des gens qui ont passé la quarantaine, donc qui sont passés par le système éducatif français. Et qui arrive, qui parle un français de lettré.
Oui.
Bien mieux qu'un français courant, quoi. Et qui amène presque par la main, puisque c'est presque un geste traditionnel en Mauritanie, leurs enfants qui ont 18 ans, qui ont eu des bacs C arabes, filière arabe avec mention très bien, et qui ne parlent pas un mot de français. Parce qu'à un moment, cette langue était interdite, un petit peu par le pouvoir politique, et puis même, ça n'était pas un honneur
bien vu,
quoi. Mmh. Alors que maintenant, on sent très bien cette ouverture. Mon président, M. Hamza, qui était...
Donc cette ouverture est intervenue avec ce changement politique.
Il y avait quand même des frémissements et des prémices. Non, depuis la réforme de 99, d'abord, depuis une dizaine d'années, le français revient de manière spectaculaire dans le paysage linguistique. Et comme je vous le disais, pas uniquement pour des raisons traditionnelles, parce qu'avant, les parents, tous les grands dirigeants de cette nation parlent parfaitement le français. Parce que ça correspond aussi à un besoin professionnel universitaire.
Oui. Et puis, ils étaient quand même, depuis, comme je disais tout à l'heure, depuis 1946, considérés comme territoire français d'outre-mer.
Et puis,
donc à l'époque, il y avait forcément une éducation en français.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Moi, je vais vous donner des exemples très précis. Hein. J'ai un de mes professeurs qui va devenir cette année le directeur de l'Alliance d'Attar, puisque nous avons deux directeurs qui vont devenir des directeurs qui ont été recrutés au mois de juillet et qui vont être là récemment, et qui sont des Mauritaniens. Donc, Kaïdi et Attar vont être dirigés par des Mauritaniens.
Ah oui.
Couplés à ce qu'on appelle des volontaires internationaux, hein, qui vont amener leur expertise un peu linguistique et puis culturelle.
Des professeurs de français, mais de nationalité mauritanien.
Oui, mais professeurs de français, c'était un appel d'offres qui était ouvert, même à des cadres importants, je veux dire.
Oui.
Bon, mais c'est le comité qui est souverain. Les comités d'alliance, étant donné que ce sont des associations de droit local, sont des comités souverains. Et ils ont un petit peu élu des enfants du pays, là.
Oui.
Mais pour vous donner un exemple, Mohamed Taleb, là, qui est ce nouveau directeur, a été au lycée national où il n'y avait que des professeurs français. Il a une DSS de programmation culturelle, il a fait ses études à Avignon. Je veux dire, bon, il a vraiment la culture française. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui défend aussi ses valeurs et notamment sa culture nomade, puisqu'il est de la Drar.
Oui.
Hein. Je vous rappelle que la Drar, c'était le lieu où Pierre Messmer a été commandant de cercle.
Ah, et ça nous intéresse tout particulièrement.
Qui est un très grand ami de la Mauritanie.
C'est notre chancelier.
Tout ce qui se passe en Mauritanie et qui a d'ailleurs inauguré l'alliance de Nouakchott en 96 que je dirige.
Ah, mais formidable, vous voyez comme le monde est petit.
Et d'ailleurs, nous avons un très beau site que peuvent consulter vos auditeurs sur afmreseau.net.
On va marquer ça à la fin de la page, que tous les internautes peuvent trouver comme lien.
Et on peut déjà y accéder. Il est très beau, vous verrez graphiquement. Et il y a la présentation de toutes les alliances. Et je vais bientôt mettre en ligne un diaporama, un petit peu, un PowerPoint sur cette histoire de la délégation générale.
Pour voir un petit peu
bien sûr,
la vie.
Moi, j'ai des photos où on trouve monsieur Messmer.
Oui, à l'inauguration.
À l'inauguration, bien sûr. Qui sont conservés à l'ambassade et qui sont conservés dans les archives de l'Alliance de Nouakchott.
Parce que vous me disiez que donc Pierre Messmer était...
gouverneur de cercle, c'est-à-dire a dirigé la région militaire, était gouverneur de région, quoi, de la région d'Attar.
Et il préside un cercle à Paris
d'amis de la Mauritanie, bien sûr. Je crois qu'il le dit pas parce qu'il vient peut-être en cachette ou incognito, mais il a laissé de très nombreux amis. Et vous savez, moi, par exemple, je sais qu'il connaît le président d'honneur du réseau des alliances, Monsieur Saïd Doudba Modi, qui a été ambassadeur à Washington et qui est un ami personnel puisque je travaille beaucoup avec lui. On a participé récemment à l'élection des nouveaux directeurs des alliances. C'est un ami personnel de Monsieur Messmer et qui est le père de Saïd Doudba Modi était un ami de Monsieur Messmer. Monsieur Chirac, le président, s'est rendu dans la Drar.
Ah oui.
Donc, c'est une région qui est très connue, qui a été une région très importante sur le plan militaire, mais qui, en même temps, est une région où les Français sont encore très aimés, quoi. D'ailleurs, ils se font beaucoup de soucis dans ce changement de directeur, mais comme leur ami, une personne qui est réputée pour sa culture française, ça atténue, si vous voulez, la peine.
Donc, ma deuxième question, était quels sont les rapports avec la France et la Mauritanie actuellement ? Vous l'avez déjà largement couverte.
Je peux vous le dire, même sans aucune démagogie, ils sont excellents en ce moment. Les gens qui sont au pouvoir, je vous le dis, et la transition qui s'annonce, les Français sont des partenaires pour eux incontournables.
Oui.
Ça, c'est indéniable, on le sent. Mon président est un grand francophone, est un homme politique très important de Mauritanie, M. Armel Dounamza. Il le répète très souvent dans tous ses discours et tout. C'est un francophone et un francophile. Et jusqu'à sa mort, il le dit toujours, il le restera. C'est un ami de la France. Et il veillera toujours dans son combat politique à ce que ses rapports avec la France soient toujours, même s'il y a parfois quelques anicroches, au beau fixe.
Oui. Mais pour revenir à cette question par rapport à la langue arabe, il y a quand même, je trouve que ça demande beaucoup aux petits et aux grands Mauritaniens d'apprendre non seulement leur langue maternelle, mais également le français et l'arabe. Ça fait déjà pas mal d'exigences.
Bien sûr, comme je vous ai expliqué la difficulté de ces gens qui n'ont pas l'arabe et le français comme langue maternelle. Mais si vous voulez, en plus, l'instauration de cette réforme crée, si vous voulez, d'énormes problèmes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le corpus, si vous voulez, nécessaire de professeurs pour la mener à bien. Donc, que ce soit la Banque mondiale, l'Union européenne, que ce soit la France, qui est très impliquée dans le système éducatif, on essaye, si vous voulez, de, et bien entendu les Mauritaniens, de combler ce manque de professeurs. Parce que quand il y a eu la période de forte arabisation, ça se passe dans beaucoup de pays. Le professeur de français, bien entendu, a perdu de la valeur sur le plan de la représentation. Donc les gens qui avaient les capacités de se diriger et de faire ces études difficiles en langue française ne l'ont plus fait.
Oui.
Donc maintenant, on a un vrai problème de recrutement de professeurs et de formation. C'est pour ça qu'elle est difficile à mener, cette réforme. Parce qu'il y a d'énormes besoins et on n'a pas les gens sur le terrain pour la mener. Pour vous donner un exemple, en Mauritanie, moi j'ai une vingtaine de professeurs de français langue étrangère qui sont d'un très bon niveau, mais c'est tout.
Des Mauritaniens.
Des Mauritaniens.
Oui.
Et qui viennent faire des stages ici, qui font des stages longs. Alors, nous, le principal travail pour moi de délégué général, c'est d'organiser une formation, si vous voulez, continue interne, pour que ce savoir-faire et cette compétence en français langue étrangère soit transmise à tous ces professeurs qui ont des qualités intellectuelles mais qui n'ont pas eu la chance de baigner dans cette culture française comme ces gens qui ont plus de 40 ans l'ont vécu.
Oui, oui.
Voilà le véritable problème.
Écoutez, après ce premier voyage au cœur de la Mauritanie, je vous propose une petite pause musicale. Après cette pause, nous sommes toujours en compagnie du directeur de l'Alliance française en Mauritanie, Luc Fabre. Et maintenant, je vous propose de parler plus précisément de la situation politique et sociale.
Oui.
Nous avons quand même déjà un peu touché. Est-ce que cette situation politique du pays a un impact sur vos activités directement? Et en quoi vous ressentez-vous cet impact, justement?
Alors, je ferai deux remarques là. Il est indéniable que sur une durée un peu longue, on bénéficie de cette bonne presse de la langue française, signe d'ouverture, signe d'un respect de valeurs éthiques, etc. Et en même temps, comme je vous l'ai expliqué, ce besoin universitaire et professionnel. Donc nous avons énormément, si vous voulez, de demandes. Et on a même du mal à y répondre. On a à peu près, si vous voulez, à peu près 1500 personnes qui ont entre 18 et 25 ans, qui viennent à l'Alliance française pour apprendre le français. Et on a toutes les administrations mauritaniennes qui nous confient leur personnel. Ministère des Finances, des Armées, ministère de la Culture. Donc, vous voyez, on couvre vraiment, on se substitue à un système qui a du mal à fonctionner. Mais de notre côté, cette période de transition, et comme toutes les périodes de transition politique, a fait naître, si vous voulez, aussi des inquiétudes. Parce que là, vous le savez, ils ont voté récemment le référendum qui a été approuvé à 98 ou 99%, qui va donc imposer une nouvelle constitution. Et là, en novembre 2006, nous avons les élections municipales et la députation et ensuite après les présidentielles.
Donc, et quel est l'enjeu?
C'est un enjeu très important puisque on peut dire là qu'il y a un véritable engouement pour mettre en place, si vous voulez, une société beaucoup plus, si vous voulez, démocratique. D'ailleurs, le président actuel du SMJ, le comité militaire, ne se représente pas. Je veux dire, a décidé que tous les gens qui faisaient partie de ce comité militaire ne pouvaient se présenter aux futures échéances politiques. Donc en ce moment, un nouveau, et c'est pour ça que c'est un peu excitant, et en même temps très intéressant, les gens ont beaucoup d'espoir dans cette, si vous voulez, transition, on a un nouveau paysage politique qui est en train de se dessiner et qui va instaurer un régime, si vous voulez, démocratique. Avec ce facteur de la présence du pétrole en Mauritanie qui est à la fois un signe d'espoir, mais à la fois inquiétant, puisqu'on a des exemples hein, tout autour.
De perdre un peu l'âme du pays, peut-être.
Voilà. Et donc, vous voyez, il y a des enjeux extrêmement importants, avec un véritable engouement, un travail déjà qui est effectué par ce comité militaire pour essayer d'assainir la société et puis la rendre davantage de droits. Donc, vous voyez, on a une période très importante qui va durer 2 ans, où va être mis en place en 2007 un nouveau président avec une nouvelle Chambre de députés et de nouveaux maires.
Et l'Alliance française dans tout cela ?
L'Alliance française, son président est très impliqué d'ailleurs dans cette transition politique, hein, puisque...
Elle est obligée d'entrer un peu dans les contacts politiques.
L'Alliance française, elle est apolitique et religieuse.
Hein, oui,
donc,
bien sûr,
mais,
théoriquement.
Par ses statuts. Mais il est évident que comme le français est un élément très important, elle joue aussi un rôle important parce que l'Alliance française est symboliquement un lieu d'ouverture, d'échange, de dialogue culturel. Et c'est ce que veut instaurer ce nouveau...
C'est une autorité, déjà.
Ah oui, c'est une autorité. D'ailleurs, dans mon comité et dans les membres de l'Alliance de Nouakchott, vous n'avez que des anciens ambassadeurs, anciens ministres, journalistes, des ministres en activité, le ministre des Finances et de la Planification.
Oui, on parlera peut-être dans la dernière partie plus précisément de l'Alliance, c'est-à-dire comment ça fonctionne au niveau des méthodes d'enseignement. Mais pour l'instant, donc, on parle plutôt encore des relations, disons,
L'Alliance,
sociales
elle
n'a
pas
et
un
politique.
Rôle très important, elle n'a pas beaucoup de, si vous voulez, d'influence, mais symboliquement, c'est très important parce qu'elle le diffuse dans toutes les régions. Parce que quand vous regardez la carte de nos alliances, Nouadhibou, c'est au nord, je veux dire, Kaïdi, c'est à la frontière du Sénégal, Attar, c'est en plein centre, l'Adrar, Nouakchott, une ville presque de 1 million d'habitants bientôt, vous voyez. Et donc on accompagne cet échange et ce dialogue des cultures et cette promotion de la culture française.
Oui, justement, le grand mot, le maître mot dialogue des cultures, c'est très intéressant parce que là, il y a énormément de dialogues ou d'échanges multilatéraux.
Je vais vous donner un exemple très intéressant. On a effectué cette année, avec l'Alliance de Kaïdi, oui, avec la région Centre.
Oui.
On a un partenariat avec l'Alliance de Kaïdi et on vient de, pour promouvoir cette diversité culturelle, on vient de publier un recueil de contes du fleuve qui rassemble les 4 ethnies qui sont présentes à
Kaïdi.
Avec
leurs 4 langues, donc
exactement, traduit dans les 4 langues.
Entre
Soninké,
le sud,
Assania,
Afrique
Poulard,
noire et le nord plus...
Voilà. Donc, vous voyez, on participe, nous, directement.
Maghreb.
C'est un gros succès. Et pas uniquement... Nous, on ne veut pas en faire quelque chose de commercial. La preuve, on le distribue gratuitement dans toutes les écoles et dans tous les lycées pour qu'ils puissent travailler sur des contes avec leur traduction bilingue dans les établissements mauritaniens. Voilà un exemple très simple de travail.
J'imagine que ça favorise énormément une cohésion nationale par le français interposé,
bien
peut-être.
Bien sûr, je peux vous dire que ce soit l'ambassadeur de France, M. Nicolozo, Patrick Nicolozo, que ce soit M. Saïd Amodi, le président d'honneur des alliances, ou que ce soit les différents présidents, ils veillent à ce qu'il y ait constamment dans ces alliances, aussi bien par la promotion du français que par la programmation culturelle, cette diversité des cultures qui soit mise en avant.
La tradition de la francophonie existe, et j'entends aussi en Mauritanie, et on peut l'observer dans ce coin d'Afrique sur la route des caravanes que j'ai trouvé par un titre d'ouvrage. Il y a un livre qui s'appelle « Sur la route des caravanes » et donc la francophonie existe sur cette route des caravanes.
Bien sûr. Vous avez à côté de Attar, qui est une de nos alliances importantes, vous avez Shingeti, qui est une ville sacrée de l'islam, où vous avez un lycée, où bien entendu, dans ce lycée enfoui dans le sable, ils apprennent le français. Et on a un visage même, on a bien entendu des activités qui sont délocalisées à Shingeti, mais on a un visage même d'y créer une... Il y a une maison du livre déjà, et d'y créer des activités de l'Alliance d'Attar, qui a été totalement rénovée. Ce sont vraiment des lieux de métissage, les alliances. Et c'est pour ça qu'elles ont un rôle très important en Mauritanie. Parce que c'est un pays complexe, la Mauritanie, avec ses 4 grandes, si vous voulez, cultures qui se croisent, qui se mélangent, mais qui sont aussi au cœur de tous les enjeux politiques. Ouais. Pour vous donner une anecdote, l'année dernière, nous avons monté une pièce avec les étudiants de l'Alliance de Nouakchott de Moussa Diagana, qui a été publiée d'ailleurs ici, qui est un dramaturge qui travaille au Mali en ce moment. Quand je l'ai amené...
Un dramaturge mauritanien.
Un dramaturge mauritanien. Quand je l'ai amené à l'Alliance, il a cru qu'il y avait un mariage. Tellement il y avait du monde. Je l'ai pris par la main quand il est rentré sur la place où devait se dérouler le spectacle. Il a été très ému, surtout de voir monter par 2 petites morts, dont une fille d'imam, qui jouait le rôle de Targhia, cette pièce. Pour lui, qui
en français
bien entendu en français. Pour lui qui avait quitté la Mauritanie, que Moussa Diagana, négro-mauritanien, si vous voulez, puisse voir sa pièce jouée par 2 petites morts qui jouaient le rôle de Targhia, qui se succédaient dans la pièce, dont une fille d'imam, pour lui, c'était impensable. Et tous les journalistes qui faisaient partie de mon comité n'y croyaient pas, disaient, et étaient même sceptiques. Et ça a été un très grand succès qui a été couvert par la presse, etc. Il nous a fait un mot de remerciement. Et
comme quoi le dialogue des cultures est très vivant en Mauritanie.
D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'Alliance, vous avez des photos de ce spectacle qui a eu un succès. Et qu'il y a eu un succès, pas uniquement public, symbolique, toute la presse en a parlé.
Oui.
Parce que c'est quand même intéressant, ce recueil de contes ou ce type de spectacle.
Voilà, ici, je vous propose une autre pause musicale pour ponctuer cet entretien avec Luc Fabre, directeur de l'Alliance franco-mauritanienne de Nouakchott. Nous sommes toujours en compagnie de Luc Fabre, directeur de l'Alliance franco-mauritanienne de Nouakchott. Et maintenant, j'aimerais bien vous entendre parler un peu plus précisément de votre alliance, c'est-à-dire comment ça se passe dans la vie quotidienne, quelles sont les méthodes d'enseignement, les programmes, les professeurs. On a évoqué ça un tout petit peu légèrement tout à l'heure. Ils sont donc en principe plutôt mauritaniens.
Bien
vous avez,
sûr.
Oui, aussi tout le personnel, le secrétariat, etc. Vous avez, vous travaillez avec, en général, alors, un personnel local.
Voilà. Et bon, très rapidement, hein, l'Alliance 2000 étudiants en 2005, ce qui est quand même une alliance importante.
Oui. Et de quel 60, âge vous, vous
voilà,
disiez
75% des gens ont entre 18 et 25 ans. Mm. Les 25 ou 30 autres pourcents sont constitués par des gens qui viennent du privé, des fonctionnaires, des formations qu'on appelle sur objectifs spécifiques. Nous donnons des cours à l'armée nationale, nous donnons des cours au personnel du ministère des Finances, oui. Au personnel du ministère de la Culture, à des sociétés privées comme Coca-Cola, Soboma. Enfin, comme,
donc avec une langue plus commerciale.
Alors ça nous intéresse parce que si vous voulez, ça nous permet de délocaliser. C'est-à-dire que quand on a ce type d'administration de société privée, nous pouvons faire nos cours à l'extérieur, si vous voulez, du siège de l'Alliance.
Oui.
Et ça, c'est très important pour nous, parce qu'on a une villa en plein centre-ville, qui est assez spacieuse, on a 10 salles de cours, mais vu le succès de l'Alliance, pendant les 4 ans où j'étais là-bas, de 2002 à 2006, on augmentait à peu près entre 30 et 40% par an
le volume des inscriptions.
Donc oui. Ce qui est énorme. Quoi.
C'est presque comme le volume, comme l'augmentation de la démographie, parce qu'elle est en forte croissance également.
Forte croissance.
J'ai vu ça
j'ai
sur,
pas le, oui, oui,
dans la documentation.
Mais c'est surtout, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter, cette réforme qui oblige un petit peu les gens à utiliser le français aussi bien dans leurs études que pour les affaires, le commerce. Et puis, c'est aussi la langue administrative. Donc, c'est une langue qui, politiquement, est importante.
Donc, pour bien fixer la chose, normalement, la Mauritanie est une république islamique avec la langue officielle arabe.
Oui.
Mais la langue administrative est tout de même le français.
L'arabe et le français, mais oui. Il y a encore des... vous voulez, j'allais pas dire des restes, mais beaucoup de textes, si vous voulez, officiels, s'écrivent en arabe et en français.
Ah oui.
Administratif.
Donc c'est presque un pays bilingue.
Oui.
Et multilingue par les différents accents.
Bien sûr, plurilingue.
Enfin, langue locale, oui.
Bien sûr. Donc nous, comme je vous le disais auparavant, on a une responsabilité un peu civique quand même et citoyenne,
bien
parce
sûr,
que
oui,
toute la jeunesse, si vous voulez, de Mauritanie souhaite ou passer aussi par l'enseignement de l'Alliance. On a une excellente réputation qui est liée à la compétence des profs et puis aussi, si vous voulez, au
climat un peu centre culturel.
Oui, au climat culturel, au bien linguistique et puis aussi parce qu'il y a aussi cette image de la France.
Oui, donc, mais qui est plus accessible que l'ambassade. Donc, les
exactement.
Gens.
Exactement. Donc, oui, alors, vous touchez un problème un peu sensible, puisque vous savez qu'on a il y a un doublon comme dans d'autres pays, puisqu'il y a le centre culturel qui fait la programmation culturelle, et nous qui sommes chargés de l'enseignement. Mais la répartition, si vous voulez, des composantes de la société mauritanienne ne se fait pas comme on le voudrait. Je veux dire, à l'Alliance, nous avons essentiellement une population maure. Bien que, vu la modestie des prix pratiqués, nous avons de plus en plus de personnes qui comprennent que l'Alliance n'est pas uniquement réservée à des grands débutants, mais ils peuvent perfectionner leur français et même obtenir, si vous voulez, des cursus de formation sur ce qu'on appelle du français de spécialité. Donc de plus en plus de gens, par exemple, qui ont un bon niveau en français et qui sont négro-mauritaniens, viennent préparer soit leur bac, soit des études universitaires.
Des études supérieures,
voilà,
oui.
Au niveau, bien entendu, de la pratique du français à l'Alliance franco-mauritanienne.
Oui.
Et d'ailleurs, ça se voit dans notre... Vous savez qu'on a eu quand même l'année dernière pratiquement 2000 inscrits aux examens du DELF et du DALF, qui sont quand même un paramètre pour évaluer le succès d'une alliance.
Hein. Oui.
Et nous avons maintenant de plus en plus de gens qui commencent à obtenir les niveaux les plus élevés de cet examen.
Et par des méthodes d'enseignement.
Alors, nous avons des méthodes de français langue étrangère, bien entendu,
classique.
Qu'on essaye d'adapter, si vous voulez, à la culture. Parce que le gros problème dans ces pays arabes, c'est que ces méthodes ne sont pas toujours adaptées, leur contenu, et notamment leur interface, j'allais dire, culturelle, si vous voulez, la culture arabe. Donc on est obligé, et nos professeurs sont sensibilisés, si vous voulez, à ce problème, d'inventer un petit peu nos documents authentiques pour qu'ils puissent être, si vous voulez, vécus culturellement.
Oui.
Parce que les normes ou les critères, si vous voulez, de cette culture ne sont pas les mêmes que ceux que l'on rencontre dans les méthodes de français langue étrangère. Donc ça donne, bien entendu, un dynamisme et une activité à mes professeurs qui sont obligés d'utiliser plusieurs méthodes, mais de créer aussi leurs propres documents authentiques pour leur support de cours.
Oui. Oui, pour rendre la chose vraiment attractive et dynamique et éventuellement ludique.
Il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, c'était...
La chose de l'apprentissage.
Bien sûr, parce qu'il y a 50 ans, c'était une population essentiellement nomade,
donc
de tradition orale.
Oui, 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 oui.
Et d'ailleurs, on a beaucoup plus de difficultés à la pratique de l'écrit qu'à l'oral. L'oral, il se débrouille très bien. Mais dès qu'on passe
oui,
à l'écrit...
Oui, ils ont probablement une oreille naturellement très douée pour
oui, l'apprentissage. Oui, c'est une civilisation
pour
essentiellement
l'apprentissage
orale,
de la langue.
Donc... L'écrit pose un problème. C'est pour ça que dans tous nos modules, on insiste beaucoup sur les modules aussi de l'écrit.
Et de l'image aussi.
Bien entendu.
Oui.
Non, mais ça, on l'utilise tout le temps. Image
oui.
Et... Mais on renforce aussi les modules d'écrit pour qu'on ne se limite pas qu'à l'oral.
Alors, ma question au sujet de votre communication pour vous faire connaître, je crois qu'elle est déjà automatiquement répondue puisque vous êtes apparemment très, très populaire. Donc, vous n'avez plus besoin de faire beaucoup de communication par presse ou radio ou autre moyen.
Curieusement, on utilise une méthode qui est très traditionnelle et qui est appréciée par les Mauritaniens. Ce sont les banderoles à tous les carrefours.
Ah oui.
Bien sûr. On
n'utilise
pas la radio. Parce qu'il y a une radio, il y a Radio Jeunesse qui est utilisée, donc on l'utilise un peu. J'aimerais même qu'on ait des contacts beaucoup plus profonds. Mais ça, il faut que la transition s'effectue. Parce que tous ces projets vont se réaliser dans les années à venir. On aura certainement une émission, si vous voulez, de francophone. Pour le moment, c'était plus difficile. Donc, nous utilisons essentiellement ces banderoles qu'on dispose à tous les carrefours, aussi bien pour la programmation culturelle que pour la publicité de nos cours. Et qui sont des instruments très efficaces.
Et qu'est-ce qui est écrit sur ces banderoles ?
On les fait en arabe et en français.
Oui.
Nos propositions de cours.
De cours ?
Ou notre programmation culturelle.
Comme une affiche
Oui, alors on les fait très colorées, on les change, on les varie.
Oui.
On en pose à peu près 6, vous voyez, sur Nouakchott. les 6 grands carrefours de la capitale.
Ah oui.
Voilà.
Et ça, ça fait venir du monde.
Bien sûr. On a un taux à peu près de fidélité de 30% sur l'année.
Oui.
On la constate à chaque session. Si vous voulez, notre année est divisée en 4 sessions. On travaille, on n'est jamais fermé. Hein. On travaille sur des sessions de 10 semaines.
Pas de 35 heures.
Non, pas de 35 heures. Avec des formules de 60 ou de 100 heures sur 10 semaines. C'est-à-dire soit 6 heures ou 10 heures par semaine.
Les affaires étrangères vous seront reconnaissants.
Mais elles l'ont été. Je crois que notre réseau est apprécié. Il commence à être connu. Et on a fait, je crois, un excellent travail. On a été très soutenus. Hein. Aussi bien par mon comité que par l'ambassade de France.
Oui.
Et la mission de coopération.
Et vos manifestations culturelles ou artistiques?
Alors, étant donné qu'il y a un doublon, notre programmation culturelle est essentiellement pour les alliances de province qui jouent le rôle de centre culturel. C'est-à-dire Noidibou, Attar, Kaïdi, et bientôt, sur la route de l'espoir, nous espérons Kifa, oui. qui mène bien entendu sur le Mali. Où là, c'est un carrefour de culture où on a vraiment les 4 communautés très fortement représentées, avec même d'anciennes familles françaises
oui.
qui sont installées là-bas. Et on espère, ils ont reçu leur habilitation. Donc notre 5e alliance va normalement démarrer en septembre. Le dossier a été transmis à l'ambassadeur qui va le transmettre à l'Alliance de Paris. Donc voilà, nous avons toutes les régions, nous avons une alliance. Il manque maintenant plus que cette ville qui est au bord de la frontière avec Saint-Louis du Sénégal, Rosso, qui est un lieu très
oui.
important aussi. Et je pense que là, les lieux importants seront,
oui.
si vous voulez...
Mais vos manifestations artistiques, c'est-à-dire
oui.
les expositions ou les,
oui.
peut-être les pièces de théâtre, comme
oui.
vous avez évoqué tout à l'heure, ou encore, je ne sais pas moi, des conférences ou des... Ou des
alors,
signatures de livres d'écrivains français. Est-ce que vous avez beaucoup d'activités dans ce sens?
Alors, dans ce sens, on a, si vous voulez, une programmation culturelle qui est liée à chaque alliance, hein, qui essaye de développer...
Ah oui, vous ne faites pas des tournées dans
si,
le
pays? On a des tournées, mais les tournées posent, si vous voulez, des problèmes, je veux dire, financiers. Quand vous connaissez les difficultés à se déplacer, Attar est à 500 km, Kaïdi est à 500 km.
Ah, il va falloir vous faire nomade.
Exactement. Bon, maintenant, je veux dire, on commence à avoir des routes entretenues. Vous savez, la route Noidibou-Nouakchott.
Combien
ouvre,
de kilomètres?
Qui ouvre le Maroc et qui ouvre l'Europe à la Mauritanie, elle a été inaugurée l'année dernière.
Ah oui.
Il fallait 11 heures de piste pour se rendre à Nouakchott.
Ah oui. Oui.
Je veux dire, pour le directeur de Noidibou.
C'est un problème auquel
vous imaginez,
on ne pense pas toujours.
Quand on déplace, par exemple, le groupe de Malouma, où il y a 10 musiciens, ce sont quand même des fortunes. Donc, et comme il n'y a pas encore une culture du mécénat privé, enfin,
oui.
On est en train de monter tout ça. Ça fait partie de l'ouverture de ce
c'est
pays.
C'est vraiment
aussi.
Un jeune pays et
ah,
vous
oui,
êtes
et
un
plein
peu...
de promesses.
Oh, plein de promesses,
ah oui,
et vous êtes vraiment parmi les pionniers donc
je pense,
à redynamiser au niveau culture.
Une des grandes griottes, Malouma, qui est passée au New Morning récemment et qui a fait tous les grands festivals de musique francophone, hein, qui a fait une tournée à New York aussi, Malouma a fait l'année dernière une tournée d'Alliance, où d'ailleurs un DVD est sorti sur musique, a été diffusé sur le câble.
D'ailleurs, peut-être on aura le privilège de l'écouter.
D'écouter, qui est une très
une
belle
de
voix.
Nos pauses. Oui.
Très belle voix.
Oui.
côté
c'est un
de...
peu difficile d'organiser
je
des
dois vous dire que
grandes
faire
manifestations.
Des spectacles de France, ça nous pose des problèmes de budget et de transport.
Oui.
Donc, on essaye avant tout de promouvoir les artistes mauritaniens parce que c'est plus facile
oui.
pour nous, pour des raisons de
et
budget.
Et puis, ça participe parfaitement au
Bien
dialogue
entendu, comme toutes les alliances
cultures.
Au monde, on a des expos, des signatures de livres.
Et récemment, qu'est-ce que vous avez eu comme, par exemple, comme écrivain qui serait venu en Mauritanie?
J'ai interviewé Tahar Bekri, le poète tunisien. J'ai interviewé Boris Boubacar Diop,
oui.
l'écrivain sénégalais. Alors, ça, petite précision, c'est quand on a ce qu'on appelle nos fêtes officielles, hein, l'Iran Fête, le Printemps des Poètes, les Journées de la Francophonie, on est très actif. Parce que là, on a des budgets, on associe les Mauritaniens. On appelle ça regard croisé. Donc, vous voyez, par exemple, on avait la double composante. Là, j'ai interviewé Boubacar Boris Diop,
oui.
qui est un écrivain sénégalais, mais la partie maghreb était représentée, si vous voulez, par Tahar Bekri, qui est un poète tunisien qui vit à Paris et qui est professeur à la fac ici.
Donc c'était une table ronde.
Oui, plus que ça. Je veux dire, carrément une présentation des œuvres avec
oui.
des interviews, des entretiens au centre culturel, dans les alliances, avec signature de livres, avec conférences. Voilà, pour vous donner un exemple.
Et en général, il y a beaucoup de public?
Oui, il y a beaucoup de public parce que... Si
ça crée un événement.
Oui, puis on a essayé d'être un petit peu habile. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de conférences moi-même pour attirer le public, si vous voulez, des lycées et des écoles sur des œuvres, si vous voulez, francophones qui sont au programme. Par exemple, j'ai fait une conférence sur Amadou Kourouma, puisque j'ai travaillé avec lui quand j'étais en Centrafrique auparavant. J'ai fait une conférence sur Zola. J'ai fait une conférence sur Laclos. J'essaye de, si vous voulez, de travailler aussi avec les gens qui me donnent des petits coups de main.
Bien sûr.
Par exemple, sur les 30 professeurs, on a 5 professeurs français à l'Alliance qui viennent travailler pratiquement bénévolement, dont une agrégée de lettres qui me rend des services, qui
oui.
est à la retraite et qui me fait des conférences croisées avec des Mauritaniens sur la poésie amoureuse.
Oui. Et là, ça demande quand même quelques moyens de communication.
Bien sûr, mais on est bien équipés.
Oui.
On est bien équipés. Et puis, chaque fois, on fait venir les deux radios traditionnelles qui nous suivent, c'est-à-dire RFI et d'Africa numéro 1.
Nous arrivons malheureusement au terme de notre émission, mais avant de nous séparer, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez un vœu ou un message à donner sur notre antenne de Canal Académie?
Un message très simple. Venez voir la Mauritanie, parce que vous y rencontrerez des paysages absolument... merveilleux, une diversité, contrairement, même si vous avez, si je vous ai dit qu'il y avait 4 cinquièmes de désert, vous avez toute cette longue côte qui est absolument virginale, et puis c'est ce mélange de roches noires et de dunes de toutes les couleurs, c'est qu'à 4 heures de vol de Paris, on peut déboucher directement dans la Drar.
Oui.
C'est-à-dire, donc.
Mais il y a des installations touristiques
Oui, surtout. Allez. Faites un pari à tard. En même temps, vous découvrirez l'alliance de Nouakchott et le désert au bout de 10 minutes.
Prenez votre chameau sous le bras. Et puis...
Vous pouvez faire, bien entendu, des méharés, puisque c'est le terme exact, à partir d'Attar. C'est-à-dire débarquer à l'aéroport d'Attar et 10 minutes après, partir en chameau dans les différentes oasis qui sont tout au long de ces vallées magnifiques.
Et pour votre alliance française en particulier.
Mon alliance, je ne me fais pas de soucis, parce que je sens qu'il y a un essor et un élan. Et que mon successeur, qui va arriver au mois de septembre, va continuer. Et j'espère que le français aura toujours cette valeur un peu symbolique de langue d'ouverture et de droit et d'éthique qui le caractérise. Quoi.
Ben, tous nos voeux vous accompagnent. En tout cas, un grand merci, Luc Fabre, de nous avoir apporté toutes ces précisions sur ce qui peut rapprocher nos deux pays, la France et la Mauritanie. Canal Académie vous souhaite beaucoup de réussite dans votre mission.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci de m'avoir reçu aussi gentiment et aussi chaleureusement.
C'était avec grand plaisir. Merci.